à partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
C'est Jean-Michel ce soir, rencontre avec.
Bonjour à tous.
Alors, Fernand Tavares, vous êtes aujourd'hui et depuis quelques années, combien en fait ?
Auprès d'une vingtaine d'années en permanence à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais je suis journaliste depuis près de 40 ans maintenant,
ouais.
Et je n'ai pas commencé que par la politique.
Bien sûr. Bien. Alors, mais vous êtes le grand patron pour France Télévisions des retransmissions télévisées du Parlement français. On vous voit régulièrement toutes les semaines. Alors, Assemblée nationale et Sénat. On peut dire de vous que vous connaissez tout de la vie parlementaire, ses dessous, ses à côté, mais également des acteurs qui font la une de la presse écrite ou télévisuelle. Comment analysez-vous votre job ?
C'est un job... J'en ai pris conscience surtout lorsque je me suis vraiment spécialisé, c'est-à-dire lorsque je me suis consacré, on m'a donné pour mission de me consacrer uniquement à l'Assemblée nationale et au Sénat. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que ce soit les deux, parce que dans le temps, les spécialistes, les journalistes s'occupaient de l'Assemblée nationale, mais pas forcément du Sénat. Il y en a qui s'occupaient de l'Assemblée, d'autres du Sénat. C'est-à-dire que, par exemple, au Sénat, il y avait très peu de journalistes, parce que l'actualité, pour tout le monde, se passe davantage à l'Assemblée nationale. C'est un tort de penser ça. Moi-même, je le pensais à une certaine époque. Et quand j'ai découvert le travail de la Haute Assemblée, qui est exactement le même que celui de l'Assemblée nationale, puisque chacun examine la loi à tour de rôle. Et bien je me suis dit, c'est très complémentaire, et lorsque je parle du Sénat, je sais vraiment ce qui s'y passe parce que je suis l'actualité. Lorsque je suis à l'Assemblée, il m'arrive même dans l'Assemblée de parler du Sénat en disant, voyez, ce projet de loi vient d'être voté à l'Assemblée nationale en première lecture, maintenant il part au Sénat où on va le retrouver dans une quinzaine de jours. Et lorsque je suis au Sénat en direct pour des questions au gouvernement, j'explique comment travaillent les sénateurs.
Bien, alors, arrivé au stade où vous en êtes de votre carrière, croyez-vous encore à la fonction politique ?
Ah, de toute façon, pour ne pas y croire, il faudrait s'apercevoir que la politique n'existe plus, ce qui est vraiment impossible. Sous toutes les républiques, des plus anciennes à la 5e, on s'est parfois posé la question. On se disait, mais alors, les politiques, à quoi servent-ils ? C'est un petit peu de leur faute et de notre faute aussi, parce que bien souvent en matière politique, ou trop souvent, on met en exergue l'écume des choses. Mmh. C'est-à-dire que on voit un parlementaire ou un ministre qui a des problèmes, qui s'enrichit par exemple, ou bien à qui on découvre des liaisons dangereuses. Enfin, on en parle moins en France, mais ça commence. Mmh. Voilà. Et sur le travail de fond, en réalité, on perd un petit peu de temps et on... Comment dirais-je ? Vis-à-vis de l'opinion française, je crois que on a tort de ne pas parler du fond des choses. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on parle du CPE, le contrat première embauche. Alors, le problème, c'est qu'on en a fait une affaire politique. Alors, tout ça, c'est parce que l'année prochaine, il y a des élections. Mmh. Mais en fait, ce contrat première embauche, c'est une petite chose, une pastille dans un grand projet de loi qui s'appelle le projet de loi sur l'égalité des chances. Alors, l'article concernant le CPE, ça, c'est un article sur 25 ou 30.
Mmh, bien sûr.
Mais on fait une fixation là-dessus parce que c'est grand public, parce que ça touche les jeunes, parce qu'il y a eu des précédents avec Balladur, avec Devaquet et tout ça, et que pour l'opposition, par exemple, il y a du grain à moudre, et c'est pour ça qu'il y a une manifestation le 7 mars. Donc ce grain à moudre, ça fait partie d'une démarche politique. Et on essaye de faire passer cette démarche politique pour un problème de fond. Mais ce que fait par exemple l'opposition en ce moment, qui est de gauche, la droite, lorsqu'elle était dans l'opposition également, faisait pareil vis-à-vis de la gauche. Ça, c'est l'avantage d'avoir duré aussi longtemps que moi au Parlement, parce que j'ai connu toutes les cohabitations,
on va en reparler.
Toutes les majorités de droite et de gauche.
Ouais.
Et donc là, je constate finalement que quand les uns ne sont plus au pouvoir, évidemment, ils font tout pour y retourner. Quand les autres ont le pouvoir, ils font tout pour convaincre que ce sont les meilleurs. Et évidemment, que lorsqu'il y a des sujets très importants comme l'emploi des jeunes, chacun essaye de trouver la faille chez l'autre parce que c'est comme important sur le plan électoral. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Bien. Quels sont les grands souvenirs, Fernand Tavares, les grands souvenirs que vous avez concernant les différentes séances du Parlement français ? Les grands, grands souvenirs.
J'en ai beaucoup. D'abord, il y a les présidents des assemblées. Hein, moi, j'ai connu Jacques Chaban-Delmas, qui était Premier ministre, oui. qui avait été déjà avant président de l'Assemblée nationale et qui est redevenu président de l'Assemblée nationale après la première cohabitation en 1986. Mm-hmm. Donc là, c'est un homme que j'avais déjà connu en tant que Premier ministre et maire de Bordeaux. Donc un véritable personnage. C'était l'époque des grandes envolées, des grands orateurs. Ensuite, comme grand président, il y a l'ancien Premier ministre aussi, encore un autre, Laurent Fabius,
ouais.
qui passe de droite à gauche, qui a essayé de moderniser, de donner un souffle nouveau, un
vent
de jeunesse à l'Assemblée nationale. Ouais. Et on s'aperçoit qu'une Assemblée nationale, ce n'est pas facile à réformer,
ouais.
parce qu'il y a des gens qui sont habitués. Figurez-vous qu'il y a des députés qui sont là depuis 4 ou 5 mandats. Il y en a qui sont là depuis 20, mmh. 25, 30 ans.
Mmh.
Et je ne vous parle pas du Sénat,
ouais.
où les sénateurs sont élus pour 9 ans, où ils ouais. étaient élus pour 9 ans jusqu'à l'année dernière, où on a changé. Maintenant, c'est pour 6 ans, tous les 3 ans, on renouvelle. Et il n'y a qu'en 2010 que le Sénat sera à 6 ans, pile. Mmh. Là, ceux qui étaient déjà à 9 ans, il y a quelques années,
ouais.
terminent.
Ouais, d'accord. Et
donc, il n'y a qu'en 2010 que maintenant, le sénateur élu n'est élu que pour 6 ans, et
alors,
plus 9 ans.
Alors, celui qui en avait pour 4 mandats, il y a 4 fois 9, 36.
Eh bien, prenez le cas d'Alain
Poher. 4 fois 9, 36, oui, je dis pas de bêtises.
Alain Poher a été président du Sénat pendant
ouais.
24 ans.
Ouais.
Lorsque je suis arrivé à temps plein, j'avais presque dire comme ouais. journaliste au Sénat, il y avait encore Alain Poher.
Mm-hmm.
C'était donc en 1989-90.
Ouais, c'est ça.
Et cet homme-là, il était mortifié quelque part parce que les journalistes ne s'intéressaient pas au Sénat du tout.
Mm.
Alors, quand je suis arrivé et que j'ai réussi à convaincre FR3 à l'époque de s'intéresser à la fois à l'Assemblée, certes, mais aussi un peu au Sénat, on a inventé, entre guillemets...
Vous avez eu du mal pour les convaincre ?
Bah, un petit peu, parce que... Enfin, parce qu'on parlait jamais du Sénat.
Ouais.
Et pourtant, je dis, attendez, le Parlement, c'est deux chambres. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, effectivement, on fait une fixation sur l'Assemblée,
mmh.
parce que là-bas, il y a les quatre colonnes. Dès qu'on veut parler, chercher un homme politique pour parler d'ailleurs de toute autre chose que le projet de loi en cours, une petite phrase sur un tel ou un tel, hop, tout le monde court
mmh.
à l'Assemblée nationale, mais on ne court jamais au Sénat.
Mmh.
Donc, j'ai créé, dans les années 90, un petit magazine du Sénat de 10 minutes qui passe deux fois par mois. Juste avant les questions au gouvernement de l'Assemblée nationale. Par mmh. exemple, mardi dernier, c'était le cas, on avait un petit magazine du Sénat avec trois sujets.
Mmh.
La discussion sur le contrat première embauche, donc ce dont nous venons de parler, dans le cadre de la loi sur l'égalité des chances. Donc c'était... Et puis, il y a également d'autres choses. Il se passe plein de choses au Sénat. Il y a des journées de réflexion importantes. Par exemple, il y a une journée importante, on en a fait un reportage sur le phénomène de la contrefaçon. Bon, ben, c'est pas que des sénateurs entre eux qui en parlent, mais ils invitent de nombreux spécialistes, directeurs des douanes, représentants de la Chine, etc. Vous voyez, par exemple.
Mm-hmm.
Et puis pendant une journée, et c'est très, très, très enrichissant, il y a beaucoup de matière. Autre thème, par exemple, qu'on a abordé, et qu'ils ont abordé ici pendant une journée, mais c'est pas dans l'hémicycle, hein. C'est mm-hmm. toujours au Sénat, dans des salles spéciales.
Où vous avez accès.
Où j'ai accès, toute la presse a accès, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de presse, hein, mm-hmm. à part la chaîne parlementaire. Donc, par exemple, ils sont intéressés à l'art. Et à la culture dans les villes et dans les banlieues. Ah, vous voyez ce que je veux dire, mmh. c'est intéressant. Eh bien, se sont retrouvés à la fois des élus de droite et de gauche.
Mmh.
Par exemple, le maire de Rennes, Edmond Hervé, l'ancien ministre de la Santé, est venu au Sénat parler avec des gens de droite et de gauche et des spécialistes de l'art,
mmh.
et des peintres, des sculpteurs et autres. Vous voyez, bon, ça fait une journée particulière. On en a fait un reportage.
Ouais.
Et donc, ça donne une image du Sénat qui est très vivante, finalement. Si on s'arrête à l'hémicycle, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais grand monde en mmh. dehors des séances de questions au gouvernement.
Mmh.
Et ça, l'opinion ne le supporte pas. Donc, ma mission, c'est ce que j'essaie de faire depuis près d'une vingtaine d'années, c'est de montrer qu'au Parlement, il y a plein, plein, plein de domaines où ça bouge
mmh.
et les gens découvrent. Voilà.
D'accord. Fernand Tavares, vous avez vu défiler des majorités différentes au Parlement. Êtes-vous le même homme selon que ce soit d'un côté ou de l'autre ?
Écoutez, si j'avais changé ou si je n'étais pas le même homme ou si j'avais une attitude différente selon qu'il y ait une majorité à droite ou une majorité à gauche, ça se saurait et je ne pourrais plus faire ce que je fais. Moi, ce qui me fait plaisir quelque part, professionnellement, c'est que, comme vous l'avez dit, quelles qu'aient été les majorités que j'ai connues,
mmh.
à gauche, à droite, cohabitation avec un président de la République de gauche ou de droite et majorité de droite ou de gauche à l'Assemblée nationale, j'ai toujours exercé les mêmes fonctions. C'est donc, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Et quelque part, si j'avais montré, comment dirais-je, une démarche partisane à un moment donné ou à un autre, quelles que soient les majorités, je ne pourrais plus exercer. Mmh. On m'aurait peut-être pas dit directement de faire autre chose, mais on aurait fait savoir peut-être à mes dirigeants ou de me donner un autre poste ou que je n'étais pas l'homme de la situation, parce qu'à ce poste-là, il faut rester, non pas le plus objectif, c'est un mot qui est galvaudé, mais il faut rester le plus détaché, je dirais, des choses. Si on commence à s'intéresser plus à telle majorité à un moment donné, et puis qu'après cette majorité tombe, donc il y en a une autre qui arrive.
Bien sûr.
Donc on aura été perçu par les nouveaux, qui étaient à l'époque dans l'opposition, comme quelqu'un qui en fait a favorisé cette majorité du moment. Et donc professionnellement, ça aurait été impossible. Donc aujourd'hui, 20 ans après, je suis reconnu certainement comme quelqu'un qui est totalement impartial.
Oui.
Quelqu'un qui est totalement impartial. Puisque, effectivement, je m'intéresse aussi bien à la droite qu'à la gauche, de la même façon, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et comme ça a changé tout le temps, ce qui m'est reconnu, et c'est ce que me disent d'anciens députés, ou des députés actuels qui ont été battus à un moment donné, puis cinq ans après, ils sont revenus, parce qu'ils ont été à nouveau élus. Ils me disent « Allez donc, nous, quand on était chez nous, on regardait les questions de gouvernance, on se disait « Ah là, ben, Tavares, il est toujours là, et nous, on a été battus, lui, malgré les majorités ou les oppositions qui changent, il est toujours à son poste. » Moi, je répondais, attendez, moi, je suis un journaliste, je ne suis pas un élu. Mais enfin, quelque part, c'est satisfaisant de constater qu'on change de Premier ministre, on change de majorité à l'Assemblée nationale, on change de gouvernement. J'ai toujours la même responsabilité de traiter l'information parlementaire pour France 3 en direct. Et donc, comme on le voit, en dehors des retransmissions, j'invite régulièrement des élus de droite ou de gauche et des membres du gouvernement. C'est à moi de faire en sorte qu'au bout du compte, tout le monde ait eu sa part de micro, si j'ose
dire. D'accord. Très bien. Alors, le président d'une assemblée, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat, est-ce qu'il peut influencer l'ambiance dans l'hémicycle ou pas, d'après vous ?
Avant d'influencer l'ambiance dans l'hémicycle, il faut d'abord qu'il se positionne par rapport au groupe parlementaire.
Ouais.
Alors, par exemple, celui qui, effectivement, réussit peut-être le mieux en la matière depuis très longtemps, c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. Il fait un peu rébarbatif comme ça, mais, par exemple, il est très chatouilleux, très intransigeant sur les droits de l'opposition. C'est assez curieux parce que, avant qu'il revienne, lui, dans la majorité, il était président du groupe RPR de l'Assemblée nationale, lorsque le RPR était dans l'opposition. Et là, il avait une action très dure contre les socialistes, contre les communistes, enfin, il était tambour battant. Et puis, paf, la droite a repris le pouvoir, il a été élu président de l'Assemblée nationale, et tout d'un coup, il se penche davantage sur les élus communistes et socialistes. Je ne dis pas qu'il les traite presque mieux que celui de l'UMP, mais presque, parce qu'à l'UMP, ils sont tellement nombreux que souvent, ils font beaucoup de bruit, et ça l'agace, lui, de voir que ses propres amis politiques gênent son travail. Alors, il mène son affaire tambour battant, et je pense que Jean-Louis Debré a réussi, en tout cas au bout de 3 ou 4 ans, à imposer ses vues. Et on a eu un clash, entre guillemets, la semaine dernière. C'est la première fois que je vois ça depuis que j'exerce mon métier de journaliste parlementaire. Il y a eu un brouhaha tellement énorme la semaine dernière. C'était des questions sur Georges Frêche, etc. Et ça s'est étripé littéralement dans l'hémicycle. Et Jean-Louis Debré dit, mais arrêtez une fois, deux fois, trois fois. Puis, puisque c'est comme ça, il était 4-10, donc il restait 10 minutes de direct. Je lève la séance, pof. Les députés, ils sont restés interloqués parce qu'ils se sont dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, c'était inaudible. Alors, un petit point de détail, c'est que les téléspectateurs ne se rendent pas compte du bruit que ça fait.
Absolument.
Dans
j'allais vous en parler.
Parce que sur les pupitres, il y a des micros qui sont très directionnels. En fait, ça prend surtout la voix et peu l'ambiance. Donc, certains téléspectateurs me disent, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a arrêté? En réalité, dans l'hémicycle, c'était épouvantable. Voilà.
D'accord. Alors, une question que tout le monde se pose, tissez-vous des liens avec certains parlementaires et peut-on avoir, à votre niveau, des relations plus ou moins amicales avec certains? Ou bien alors vous restez très, très distant?
Il y a des relations de journalistes à hommes politiques qui sont plus ou moins chaleureuses, mais il ne peut pas y avoir d'amitié au sens où on l'entend, entre un homme politique et moi. À un moment donné, ça s'arrête. Et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça. Je les respecte. Et eux, au bout du compte, et au bout du temps dont je vous ai parlé, savent qui je suis professionnellement, et ils me respectent.
D'accord.
À tel point, par exemple, oui, bon, à tel point qu'il m'arrive de me trouver dans des endroits, au milieu d'hommes politiques, où il y a des responsables importants, où il y a des ministres, où les journalistes n'ont pas à être là. J'entends parfois des choses dont je me sers pour mes commentaires, mais je ne dis pas d'où ça vient.
D'accord.
Ça, ils le savent. Mais il m'est arrivé une ou deux fois qu'un ministre m'a dit « Dis-donc, vous avez entendu ce qui s'est dit, mais je savais que je n'avais pas à être là. » Et donc, parfois, ils me prennent pour l'un des leurs, que ce soit à droite ou à gauche, et ils me laissent parce que, bon...
Ils vous connaissent.
Ils me connaissent.
Ils savent qu'il n'y aura pas d'incidence. Que,
voilà. Mais d'accord. Si par malheur, je trahissais une seule fois la confiance qui m'est faite...
Vous êtes grillé.
Je serais... complètement grillé.
D'accord, d'accord. Bien, si vous le voulez bien, on va s'accorder une petite pause musicale, et puis on reprend tout de suite après Fernand Tavares.
À partir de 18h, rencontre avec, tous les dimanches.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard reçoit une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
Rencontre avec.
Bien, c'est toujours Rencontre avec, vous êtes toujours à l'écoute de RVE et vous avez bien raison. Alors, je suis en compagnie de Fernand Tavares. Alors, Fernand Tavares, quelles sont les anecdotes que vous pouvez nous raconter concernant certaines interventions? Vous devez en avoir plein.
Les interventions politiques au Parlement ou les interventions également en région, parce que j'ai été journaliste 17 ans dans des stations régionales avant de venir à Paris. Et dans les régions, il se passe plein de choses. Et tout à l'heure, vous me disiez la connaissance des hommes politiques ou des parlementaires. Elle a commencé bien avant que je vienne à Paris.
Ouais.
Et lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des élus qui sont là depuis 25 ou 30 ans, je les ai connus avant dans leur département. Ce qui, au niveau du contact ou de la connaissance, d'ailleurs, crée aussi des liens. Et on parle de non pas de l'amitié, mais de la relation entre un homme politique et un journaliste, comme moi par exemple, eh bien, c'est que nombre d'entre eux, je les ai connus dans leur ville, c'était des petits conseillers municipaux, ils n'avaient rien du tout, puis 30 ans après, ils deviennent députés, voire ministres.
Ouais.
Parce que tous les anciens députés que je connais, de droite ou de gauche, nombre d'entre eux sont devenus, en fonction des gouvernements, ministres aussi. Donc vous voyez, ça crée un lien différent et des racines différentes.
Ouais.
Quand on a connu quelqu'un dans sa région, et puis qu'on retrouve après, des années plus tard, à Paris, dans notre fonction, ça... Au niveau de la connaissance, moi, certains me connaissent, non pas par cœur, mais ils m'ont connu toujours journaliste débutant. Vous voyez.
D'accord. Bien. Y a-t-il des moments... vous voulez rajouter quelque chose?
Il y a quand même deux anecdotes, hein, parce que j'essaie non pas de vous démontrer, mais vous l'avez bien compris, que j'ai un grand respect pour les élus, mais j'ai une exigence totale pour ce qu'on appelle le pluralisme. Et si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en suis toujours là, 20 ans ou 25 ans après, c'est parce que le pluralisme, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, et je l'exerce de façon limpide et claire et reconnue.
En fait, c'est ce qui fait votre fond de commerce, Fernand Tavares.
C'est ce qui fait mon fond de commerce, c'est ce qui fait ma force, parce que dans ma carrière, il m'est arrivé deux étapes importantes en matière de pluralisme. Et ça, je commence à la raconter parce que, comme on dit, il y a prescription, mais quand je raconte, c'est assez étonnant. Première étape importante dans ma carrière, j'ai été nommé à Bordeaux, du temps où le maire de Bordeaux était également Premier ministre, il s'appelait Jacques Chaban-Delmas. C'était en 1970, ça va faire 36 ans quand même, mine de rien. Eh bien, à cette époque-là, il faut se remettre dans le contexte. On disait, oui, l'information est muselée, à l'ORTF, il n'y a que les gens du pouvoir, etc. Ce qui n'était pas d'ailleurs entièrement faux. Et je ne vous parle pas de ce qui se passait effectivement dans les quelques stations régionales qui existaient. En 1970, donc... Je suis journaliste à l'époque en Champagne, ce qui n'a rien à voir. Le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas demande au directeur de l'ORTF de Bordeaux de l'époque de lui trouver un journaliste qui ne connaisse ni Bordeaux ni l'Aquitaine et qui vienne pour faire de l'information politique à la télévision régionale. Ça tombe sur moi et on m'explique la chose suivante, assez étonnante, nous sommes en 70, que le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, qui était l'homme de la nouvelle société, qui voulait que tout le monde s'exprime, donc c'était révolutionnaire à l'époque, avaient des problèmes avec la station régionale de l'ORTF parce que, tenez-vous bien, ils étaient tous chabanistes. Ils étaient même plus chabanistes que lui. Alors, ça posait des problèmes. Pourquoi ? Parce que les adversaires politiques de Chaban-Delmas, localement, n'arrivaient pas à passer à la télévision. Et Chaban, on lui reprochait, on lui disait « Oui, vous avez la main mise sur votre télé régionale, la gauche ne s'exprime jamais. » Et donc, au bout d'un certain temps, il en a eu assez, surtout lorsqu'il est devenu Premier ministre, ça nuisait à son image de marque. Donc, il a demandé à un journaliste, qu'il vienne comme ça, qu'il ne connaisse pas du tout le milieu, et qu'il fasse ce qu'il veut en politique, et surtout, qu'il fasse en sorte que tout le monde s'exprime. J'y suis allé pour ça. Alors ça a été la révolution sur place, parce que personne ne savait quelle était ma mission, et Chaban-Delmas ne l'avait même pas dit à ses propres amis. Voilà comment j'ai commencé le pluralisme. Et 10 ans après, donc je suis passé à autre chose, 10 ans après, c'est l'Auvergne qui est venu frapper à la porte du directeur de FR3 à l'époque. Et pas n'importe qui, c'était le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, donc Auvergnat, qui, 10 ans après Chaban-Delmas, a demandé exactement la même chose au directeur de FR3 en disant « Voilà, les dirigeants de la station régionale d'Auvergne sont tous très giscardiens, trop, à tel point que mes adversaires politiques localement ne passent jamais à la télévision régionale. Trouvez-moi quelqu'un qui ne connaisse pas l'Auvergne, qui ne connaisse pas les hommes politiques d'Auvergne et qui vienne ici pour faire en sorte que tout le monde s'exprime. Ouais. » Et moi, j'ai rencontré le président de la République avant d'aller prendre mes fonctions en Auvergne et il m'a dit « Monsieur Tavares, ce que je souhaite, ce que je veux, c'est que tout le monde s'exprime en politique en Auvergne. » Alors je vous dis pas, je vous dis « Écoutez, monsieur le président, je vais frapper fort en arrivant. » Il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire ? » Je vais inviter en direct le numéro 2 du Parti communiste de l'époque, André Lajoigny, qui était député de l'Allier. Et voilà, ça a commencé. Et j'ai eu le même cas de figure, parce que les amis de Giscard, la Chamalière notamment, n'étaient pas au courant. Le préfet n'était pas au courant. Ils ont tous téléphoné le soir à l'Élysée en disant « Vous nous avez envoyé un gauchiste, c'est scandaleux. » Bon, Giscard était très content parce que tout d'un coup, voilà, il y avait le Parti communiste, il y avait le maire de Clermont-Ferrand, Roger Quillot, qui était quand même un homme politique important pour les socialistes, qui est venu s'exprimer aussi. Donc ça a changé et voilà.
Ouais. Très bien. C'est une belle histoire.
Bah, ça explique aussi pourquoi peut-être je suis aussi bien perçu à droite qu'à gauche aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Je crois que j'ai semé finalement. D'accord. Et que si ça tient aujourd'hui comme ça tient, c'est pas un hasard.
D'accord. Bien. Alors, Fernand Tavares, y a-t-il des moments plus dramatiques, plus tendus, je dirais, que d'autres ? Je pense notamment aux périodes de cohabitation. Vous sentez des moments de tension véritablement au sein du Parlement ? Vous qui êtes à l'intérieur.
Mais oui, mais oui, obligatoirement, parce que quand il y a cohabitation, ça veut dire que la majorité au Parlement n'est pas du même bord que le président de la République.
Bien sûr.
Il y a eu cohabitation avec Chirac, il y avait cohabitation avant avec Mitterrand, et on a bien senti que c'était très tendu. Le problème, c'est que le véritable pouvoir en France, c'est tout de même le pouvoir parlementaire, parce que qui fait les lois ? Qui décide qu'on va faire telle ou telle chose par la voie législative ? Ce sont les députés.
Bien sûr.
Donc si c'est une majorité de droite ou une majorité de gauche, elle a le pouvoir d'imposer telle ou telle loi. Et le président de la République a les moyens de quoi, lui ? De dire en Conseil des ministres, attendez, là, c'est ce qu'a fait Mitterrand, d'ailleurs, avec Chirac, quand il y a eu la première cohabitation, puis et avec Balladur plus tard, il y a des projets de loi qui ne plaisaient pas à Mitterrand en cohabitation. Il le disait, et le président de la République en cohabitation a quand même des moyens pour ennuyer un peu la majorité, mais des moyens limités. C'est-à-dire qu'il peut demander une autre lecture, il peut saisir le Conseil constitutionnel, donc il peut ralentir les choses. Il peut très bien refuser de publier des décrets ou les différer, donc il peut jouer la montre, en quelque sorte.
C'est ça. Il gagne du temps.
Ça. Ça peut être ça. Mais bon, ça se fait sur certaines choses, mais globalement, par exemple, du temps où Jospin était Premier ministre, avec Chirac président de la République. Bon, Chirac aussi, on le voyait dans ses conférences de presse du 14 juillet, critiquait de temps en temps les dispositions prises par la gauche dans tel ou tel domaine, que ce soit l'emploi, la sécurité, si on en a parlé. Bon, il le disait, le président de la République. Il essayait de retarder un peu les choses, mais il ne pouvait pas empêcher que les lois soient discutées et votées par une majorité de gauche. Et Lionel Jospin l'a toujours reconnu. Dit finalement, au bout du compte, moi j'avais interviewé la dernière année, c'était quoi ? C'était même 3 mois avant le premier tour des présidentielles. J'avais interviewé en direct à l'Assemblée nationale. Alors j'avais fait quelque chose d'intéressant. Et je lui avais posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous avez été empêché, vous, Premier ministre de gauche, par le président Jacques Chirac de droite, est-ce que vous avez été empêché à un moment donné, finalement, de faire les lois que vous vouliez faire ? Eh bien, il m'a répondu, je dois reconnaître que je n'ai pas été empêché et que les lois qu'on a voulu faire on les a faites. Et c'est ça. Et je pense que sous Mitterrand, c'était pareil. Sous Mitterrand, c'était un peu le bras de fer. Mmh. Mais au bout du compte, la droite faisait passer ses lois aussi.
D'accord. Bien. Alors, on discute comme ça. Quelle est la principale difficulté dans votre profession? Alors, on a parlé. Bon, vous êtes pluraliste. Mais est-ce qu'il y a un petit côté pervers?
De la part de qui?
De la part de la profession que vous exercez. Est-ce que par exemple, vous vous dites le soir quand vous rentrez chez vous, tiens, là peut-être que j'ai été un petit peu trop loin ou j'ai pas été assez loin?
Non, j'essaie de réagir vraiment à chaud, parce que c'est quand même une spécificité étonnante. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas beaucoup de successeurs qui se bousculent, parce que nous sommes en direct, comme maintenant. En direct, ça veut dire qu'on travaille sans filet. Dès que j'ai l'antenne, si je bafouille, on m'entend. Ouais. Si je dis une ânerie, on l'entend. Je ne peux pas dire, attendez, je recommence. Ouais. Tout ça, c'est du direct, donc je ne peux pas.
D'accord.
Et il n'y a pas de perversité de ma part, et ça serait vraiment impossible. En revanche, j'écoute attentivement tout ce qui se dit, et en fonction de ce qui se dit dans l'hémicycle, à la fin, souvent, il reste quelques minutes, je fais venir un parlementaire de droite, de gauche, voire un membre du gouvernement, pour en savoir plus. Mercredi dernier, c'était très chaud entre la droite et la gauche. La droite est revenue sur l'affaire Georges Frêche, président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, et en même temps a tapé fort sur le Parti socialiste qui ne prenait pas la bonne décision, etc. Et j'ai senti là que du côté socialiste, ça a commencé à bien faire, parce que c'est vrai que la droite tape beaucoup là-dessus, et le gouvernement également. Donc là, je me suis dit, qui est-ce qui peut réagir le mieux? Il me reste 4-5 minutes. Et comme j'avais invité les semaines précédentes les représentants de la droite, donc j'avais prévu d'inviter quelqu'un de gauche, j'ai envoyé un mot à François Hollande, député de Corrèze d'abord, puis premier secrétaire du Parti Socialiste. Je lui ai dit, voilà, est-ce que vous voulez venir réagir à ce qui vient d'être entendu dans l'hémicycle? Alors, c'est eux qui décident. Mmh. Ou ils viennent ou ils ne viennent pas.
Ah, d'accord.
Il m'a fait signe qu'il venait. Donc, d'accord. Il est venu. Et on a terminé l'émission tous les deux, et là, alors certains peuvent dire que c'est pervers, mais c'est pas pervers du tout. Il y avait eu des choses dures dites sur la direction du Parti Socialiste. Il a été même courageux de venir, parce qu'il fallait qu'il réplique.
Ouais, d'accord.
Et dans l'hémicycle, il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas la parole. Pendant les questions au gouvernement, c'est très codifié. Mmh. On désigne les députés qui posent des questions, point. Mais si un autre veut, c'est pas possible.
Ouais, d'accord. Hein.
Donc, de temps en temps, en fonction des minutes qui me restent, j'invite quelqu'un de droite, de gauche, en fonction de ce que je sens. Là, c'était délicat, et pour l'information, et pour ceux qui ont regardé, c'était quand même intéressant de voir qu'ils venaient en prendre plein la figure, et qu'ils viennent en direct, sans filer lui aussi.
Ouais.
Parce que c'est comme ça, il y a une improvisation totale. Ouais. Donc, là, j'ai fait de l'information, chacun pense ce qu'il veut.
Oui, d'accord. Hein,
parce que la semaine prochaine ou les semaines précédentes, on entendait la droite qui cassait de la gauche, etc., etc. Donc, chacun s'exprime. Et d'accord. C'est ça, encore une fois, que j'aime et que je crois les parlementaires et les téléspectateurs aiment.
D'accord. Alors, une question bateau. Est-ce que vous connaissez les questions au gouvernement avant qu'elles soient posées?
Alors, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, je ne les connaissais pas ou très peu. Parce que, alors il y a deux choses. À l'Assemblée nationale, normalement, les députés qui posent les questions au gouvernement, il y en a 12.
Ouais.
12 sur 577 à chaque séance. Mais ils sont quand même tous là, parce que comme ça passe à la télé, les députés se montrent à leurs électeurs.
Ouais,
c'est pour ça qu'ils sont tous là à l'Assemblée nationale. Donc, normalement, le gouvernement n'a pas à connaître les questions que préparent les députés.
Mais, ah bon?
Ah non, ça... À l'Assemblée nationale.
Ouais. Mais ils sont convoqués quand même. Tout le gouvernement n'assiste pas au...
Non, mais attendez.
Ouais.
Par exemple, le gouvernement actuel, qui est évidemment UMP.
Ouais.
Les députés UMP qui veulent interroger tel ou tel ministre.
Ouais.
Bah, c'est leurs amis politiques.
Ouais, d'accord.
Ils donnent ils téléphonent entre membres du cabinet, ils se donnent, ils donnent le thème.
Ouais, d'accord.
Bon.
D'accord.
À gauche, ça dépend. S'ils veulent créer un effet de surprise, ils disent rien.
Mmh.
Mais s'ils veulent avoir une réponse circonstanciée, certains donnent le thème. Par exemple, le groupe socialiste peut faire savoir à tel ministre que ce sera sur le nucléaire, ou que ce sera sur le chômage, point.
Ou sur les arboriculteurs et les viticulteurs, c'était hier, et par exemple.
Quelquefois, ils ont intérêt à le dire, parce que comme ça, le cabinet du ministre et le ministre ont le temps de se préparer et de donner une réponse intelligente et vraiment complète. Mais quelquefois, ça peut être un coup politique.
Ouais.
Hein, plus on va approcher de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2007, plus ils vont essayer de faire des petits coups de surprise comme ça pour essayer de déstabiliser le gouvernement. Ouais. En ce moment, vous voyez, Dominique de Villepin, bon, c'est pas facile. Donc ils sentent que c'est pas facile à gauche et ils se disent poussons pour le déstabiliser. Nous, comme ça, on en sortira peut-être meilleur. Parler du 7 mars la semaine prochaine, si c'est un gros truc. Bon, ben, comme je disais, j'ai dit à Hollande en direct, j'ai dit, mais dis donc, vous allez avoir du grain à moudre, parce que si c'est 7 mars, c'est un succès pour vous, ça va faire quand même plaisir. Bon, il m'a dit, oui, enfin, on ne fait pas la politique politicienne, mais c'est vrai qu'on en tirera quelque part profit. Voilà.
Bien, fermons.
Attendez. Donc, théoriquement, le gouvernement n'a pas à connaître les questions à l'Assemblée. Mais au Sénat, ce n'est pas le même règlement. Au Sénat, ils sont obligés, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'envoyer par écrit leurs questions au ministre la veille au matin. Alors, ça donne quelque chose d'un peu moins vif parce que les ministres rédigent les questions, les sénateurs rédigent les questions, et quand ils posent leurs questions, c'est la même rédaction. Ouais. Donc, c'est moins vivant, je trouve. C'est moins vivant.
Ouais, et les ministres peuvent préparer leur intervention également.
Mais sur le contenu, c'est très riche. C'est
d'accord. Ça, d'accord. Alors, on passe à autre chose. Existe-t-il parfois un énorme consensus sur un sujet quelconque? Est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est toujours la bagarre?
Non, c'est pas la bagarre sur des sujets comme le racisme, comme la violence d'élèves sur des professeurs, comme les problèmes de sécurité ou d'insécurité, mais enfin là je serais quand même limité parce que ça a toujours été un problème droite-gauche, et quand la droite est venue, elle a rapproché à la gauche de ne pas avoir fait suffisamment en matière de sécurité dans les villes, dans les banlieues, et que ce qui se passe aujourd'hui, bon bref, mais avec le temps ils essaient de se rapprocher, de ne pas trop s'attaquer là-dessus. Parce que c'est vrai que si on veut, par exemple, installer une certaine sécurité dans les villes et les banlieues de France, il faut que d'alternance en alternance, il y ait une politique, non pas identique, mais une politique suivie. Alors, c'est pas très électoraliste parfois d'avoir une politique dure. C'est pour ça que et puis c'est pas forcément dans le tempérament de la gauche ou de la droite, d'être plus ou moins en phase avec tel ou tel problème de société. Bon, ça, c'est vrai. Mais par exemple, aussi sur la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, donc c'était premier mandat de Mitterrand.
L'intervention de Badinter, célèbre.
Il y a eu des hésitations du côté de l'opposition de droite de l'époque. Mais majoritairement à droite, quand même, on trouvait que oui, il fallait peut-être arrêter. Mais il y avait des gens qui ne voulaient pas, en disant oui, les assassins d'enfants, il faut les meurtriers, il faut les fusiller, etc. etc. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, que se passe-t-il? Jacques Chirac, président de la République, se propose, lui, d'inscrire dans la Constitution de la Ve République l'abolition de la peine de mort. Jusqu'à présent, c'était une loi, donc il n'y a pas de peine de mort. Mais en l'inscrivant dans ce qu'on appelle les tables de la loi, la Constitution française, c'est une autre dimension. Et normalement, ça va se faire. Alors ça va se faire, ça aboutira à quoi? À une grande unanimité parlementaire, c'est-à-dire que tout le monde va se réunir en congrès à Versailles, les sénateurs et les députés ensemble, pour voter ensemble la loi constitutionnelle qui sera inscrite dans la Constitution de la Ve République. Donc c'est hyper solennel. Ouais, et là, voilà un très grand consensus. Et je pense qu'il n'y aura pratiquement personne pour dire qu'il faut rétablir la peine de mort. Il y en a encore quelques-uns, mais ils n'oseront pas parce que c'est même l'ensemble des Français, alors qu'au début des années 80, dans l'opinion, c'était partagé. Et vous remarquerez que certains voulaient que ce soit un référendum, que ce soit les Français qui décident. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les sondages montraient que la majorité des Français n'étaient pas pour. Donc le Parlement, ça permet de faire voter des lois sans demander leur avis aux Français.
Bien sûr.
Mais le référendum, c'est toujours risqué. On a vu pour la Constitution européenne, on l'a vu avec De Gaulle sur la régionalisation, quand les Français disent non, c'est non, et puis on ne peut plus rien faire.
D'accord. Bon, on va accélérer un petit peu parce que l'heure tourne. Alors, je vais vous poser une question embêtante pour vous. Quel est le palmarès des indisciplinés, voire les grandes gueules historiques du Parlement?
Il y en a qui s'en sont fait une spécialité. Moi, je vais vous dire franchement, ceux qui sont indisciplinés, dissipés, qui font du bruit, ce sont toujours les mêmes. Mais vraiment, toujours les mêmes. Alors, par exemple, il y a quelques années, c'était le député maire de Saint-Mandé, Robert-André Vivien, qui avait une très voix très forte, tout ça. Alors, bon, pour un rien, ouais. Il donnait de la voix, il disait ouais, ça va, vous voyez, un peu, ouais. Bon, ça faisait rigoler ou pas rigoler tout le monde, ça mettait une certaine ambiance. Aujourd'hui, au Parti communiste, par exemple, c'est Maxime Grémetz. Ouais. Alors, Maxime Grémetz, député de la Somme, pour un oui, pour un non, il commande tout le temps. Un ministre est en train de répéter, de dire, répondre à une question, ouais. Il faut tout le temps, toutes les 20 secondes, qu'il dise quelque chose, c'est. Comme ça.
Ouais,
hein, donc ça fait partie de la nature. Au groupe socialiste, pendant longtemps, il y a eu Christian Bataille. Quand Christian Bataille critiquait la droite durement, alors on entendait que lui, mais vraiment. Là, il s'est calmé depuis, il est devenu plus diplomate. Je ne sais pas, lui, peut-être en vieillissant, on se calme. Mais à une époque, c'était vraiment une des grandes gueules du Parti socialiste, comme on dit. Il y a aussi Jean Glavany qui se fait entendre régulièrement. Le député maire de Nantes, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, n'a pas la langue dans sa poche
Plus.
Jean-Marc Ayrault, ouais. C'est pas qu'il est indiscipliné, mais lui, quand il prend une information qui sent très très mal, il blêmit. Et alors là, il essaie d'exploser.
D'accord.
Ça retombe. Il y a aussi, évidemment, au Parti socialiste, M. Montebourg.
Ouais.
Hein, voilà, le jeune député qui se fait remarquer non seulement dans l'hémicycle, mais aussi au sein de son groupe, et qui est vraiment, comment dirais-je, un homme qui se lâche sans problème, et qui monte au créneau, et qui, comme Danton ou Saint-Just, voilà. C'est un peu ce style-là. Il y a aussi la période Henri Emmanuelli.
Ouais.
Qui lui aussi, bon, il est dans l'opposition, mais Henri Emmanuelli, à une époque, c'était vraiment aussi une voix qu'on entendait tout le temps et qui couvrait tout.
Et puis il y a les comiques. André Santini, par exemple.
Mais c'est pareil, André Santini a été un grand comique de situation pendant des années et des années, et depuis 3-4 ans, il s'est considérablement calmé, on ne l'entend presque plus. Avant, il lançait des vannes, il faisait des jeux de mots, ça faisait rigoler tout le monde. Et puis, peut-être qu'il a tellement été caricaturé que peut-être qu'à un moment donné, ça lui a nui et qu'il n'était peut-être pas pris au sérieux, donc il est redevenu un homme plus sérieux. Mais ça ne l'empêche pas d'être enjoué, l'homme au cigare, très 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 sympathique. Puis quand même aussi, c'est le maire d'ici les Moulineaux, où il a fait beaucoup de choses.
Ah oui, absolument.
Il est très, tout à fait reconnu.
Ça, on ne peut pas lui enlever.
C'est pas un comique, c'est un homme qui est... À un moment, on a eu l'impression que c'était un comique, même parfois un peu l'idiot de l'Assemblée nationale, mais attendez, c'est un homme qui est très très intelligent, il en a joué. Sur le plan électoral, ça plaisait à l'électorat des quartiers d'ici les Moulineaux. Donc, il en a bénéficié. Et puis, peut-être qu'il en a été élu en partie aussi avec ça. Mais avec le temps, comme on le connaît mieux, il est devenu un homme très sérieux, moi, je trouve.
Très bien. Bon, alors là, on va très vite. On va essayer d'aller très vite. Quelles sont les obligations de présence, hormis évidemment les séances de rentrée, bien sûr. Quelles sont ces obligations où l'on assiste à 100% de présence?
Et je vais vous surprendre, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il n'y a pas de pointage. Ça veut dire que si un député ou un sénateur décide de jamais venir, il ne sera même pas sanctionné. Alors ça se saura parce que dans le groupe, on voit qu'il n'est pas là, mais on en a parlé pendant des années, même il n'y a pas longtemps là, parce que, par exemple, au Sénat, quelquefois, on se dit, mais où sont passés les sénateurs? On ne les voit pas. Ou dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on dit, ah oui, il y a une loi qui a été votée à toute vitesse pendant la nuit, il n'y avait que 7 députés. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et que font les autres? Alors l'opinion publique dit c'est scandaleux, ils ne travaillent pas. Mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est que l'hémicycle, que ce soit l'Assemblée ou le Sénat, c'est le bout de la chaîne. Et s'il y a 7 députés, c'est pas aussi scandaleux que ça parce que...
Ils ont travaillé avant?
Ils ont travaillé avant et tout a été voté déjà avant.
D'accord.
Donc c'est pour la forme qu'ils sont dans l'hémicycle.
D'accord.
Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas de pointeuse.
D'accord.
Et s'ils ne viennent pas, ils ne seront pas sanctionnés. Alors il y a une démarche des présidents successifs pour tenter de faire adopter dans le règlement pour sanctionner ceux qui ne viennent pas ou qui font acte de non-présence. Et puis c'est jamais passé, comme par hasard, quelles que soient les majorités.
Oui. D'accord. Bien, on assiste, Fernand Tavares, on assiste à une agitation permanente des huissiers. Mais à quoi servent-ils véritablement ces gens-là, à part apporter le courrier?
Ah, écoutez, les huissiers, ils ont des rôles plus compliqués que ça. Alors, il y a effectivement, comme vous dites, ceux qu'on voit dans l'hémicycle, apporter le courrier. Mais c'est, en fait, c'est pas le courrier, c'est des messages.
Oui, des messages.
Des
messages
qui viennent de l'extérieur. Alors, ça peut être pour des députés, dont les collaborateurs, assistants parlementaires ou autres, apportent un message parce que c'est urgent ou parce qu'il faut dire quelque chose pendant la discussion, ce qui serait important d'eux, donc ils reçoivent des conseils. Ça peut être aussi des demandes de rendez-vous de journalistes qui sont dans la salle des quatre colonnes en train d'attendre, qui voudraient interviewer un tel ou un tel. Ça peut être aussi un député à l'intérieur qui veut contacter un autre député qui fait passer des messages. Ça peut être un député qui veut envoyer un message au Premier ministre ou à un ministre au banc du gouvernement. Alors ça, c'est le plus connu. L'autre fonction qu'on voit rarement, mais ça arrive, ils ont une fonction de sécurité dans l'hémicycle aussi.
Ah d'accord.
Imaginez qu'un sénateur ou un député, passez-moi l'expression, pète les plombs. Mmh. Hein, et qu'il essaye d'aller, je sais pas, faire le coup de poing. Mmh. Soit avec un ministre, soit avec un collègue.
C'est déjà arrivé dans l'histoire.
Il y a eu des tentatives, mais alors l'histoire lointaine, ouais, hein, pas sous la Ve République, non. Ouais. Mais... alors, il y a eu des tentatives, par exemple, je ne sais plus sur quel... Oui, par exemple, c'était le groupe socialiste, je crois, qui avait encore été pas mal malmené. Pas une autre fois, ici, au Sénat, c'était l'inverse. C'est le groupe socialiste qui malmenait le ministre de l'Éducation, à l'époque, Bayrou. Et pour faire un effet, ils se sont tous levés, et ils ont fait un premier pas, comme s'ils allaient descendre tous en masse sur les ministres, vous voyez.
Alors, d'accord.
Ils vont se casser la figure. Ouais. Et là, les huissiers, les agents dont vous parlez... font un arc de cercle et ils servent de bouclier.
D'accord.
Et ils interdisent qu'on approche ou des ministres ou qu'il y ait une altercation entre les députés. Ils s'interposent.
D'accord.
Il y a une histoire au Sénat qui n'a rien à voir, vous vous souvenez pas, au moment du référendum sur le oui ou le non à la Constitution pendant la campagne, il y a un gars qui était dans la tribune du Sénat.
Oui, effectivement, hein, oui.
Quelqu'un qui regardait, donc un jeune, qui... avait sur lui un vêtement qui s'est complètement décroché, vous savez, comme le font ceux qui se mettent tout nus sur les stades. Mmh. Et là, il s'est retrouvé en string, il s'est jeté littéralement par-dessus le balcon en s'accrochant. Il est tombé dans l'hémicycle, heureusement que c'était au fond du Sénat. Et sur chaque fesse, c'était écrit non.
Ouais, d'accord.
Il voulait dire non, je vote non, je vote non au référendum. Bon, mais là, il serait tombé, par exemple, sur des élus ou sur un. Il aurait pu. Et se tuer, et tuer quelqu'un.
Ouais, bien sûr.
Mais là, par exemple, on ne va pas mettre des gens partout. Ce qui fait que maintenant, pour entrer à l'Assemblée ou au Sénat, en particulier pendant les séances de questions au gouvernement, c'est uniquement, alors que ce n'était pas le cas avant, c'est uniquement sur invitation ou sur recommandation d'un député élu ou d'un sénateur élu. C'est une sorte de garantie. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'incident, mais là, ça limite sérieusement.
Bien sûr. Bon, on va réadopter une pause musicale et puis on reprend tout de suite après.
À partir de 18h, rencontre avec, tous les dimanches.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard reçoit une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
Rencontre avec.
Bien, vous êtes toujours sur RVE et nous sommes toujours en compagnie de Fernand Tavares. Alors, pour mieux cerner votre personnalité, Fernand Tavares, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, on va se livrer à un petit jeu de questions-réponses directes. Vous êtes d'accord ?
Courte alors.
Alors, très court.
D'accord.
Tennis ou golf ?
Golf.
D'accord. Paris ou province ?
Les deux.
Les deux. Cantine du Parlement ou petit bistrot de quartier ?
Plus cantine du Parlement, parce que j'y travaille tout le temps, donc à l'Assemblée ou au Sénat, il n'y a pas que les restaurants pour les élus, il y a aussi les restaurants pour le personnel et pour les journalistes parlementaires. On a un bar de la presse, donc, et puis je suis également au restaurant de France Télévisions, qui est ouvert, lui aussi, 7 jours sur 7. Voilà.
D'accord.
Mais ça n'empêche pas d'aller de temps en temps quand même dans les petits bistrots, quelquefois, ça arrive.
D'accord. Sucré ou salé ?
En ce moment, plutôt salé, parce que j'ai des petits problèmes avec le sucre. Donc, vous voyez, quand on prend de l'âge, il faut faire attention.
D'accord. Et puis, dernière question très, très brève. Animaux de compagnie ou animaux de la ferme, puisqu'on est en plein salon de l'agriculture, là.
Écoutez, pour l'instant, je n'ai plus d'animaux de compagnie. J'avais un très beau chat qui, malheureusement, est décédé il y a 2 ans. Donc, j'étais très chat, donc animal de compagnie. Et depuis, j'en ai plus.
D'accord. Bien. Alors, vous savez, Fernand, que vous le savez très certainement, puisque l'interview est votre métier, vous savez qu'il y a toujours une bonne âme pour dire « Mais pourquoi a-t-il posé cette question à la con ?» Eh bien, moi, je vais vous la poser, comme il est de tradition dans cette émission, la fameuse question à la con. Alors, êtes-vous dégoûté à tout jamais de vous présenter au suffrage universel, ou bien alors avez-vous une petite idée derrière la tête ?
Je vais vous dire, plusieurs fois, on m'a tendu des perches.
Ouais.
Pour me dire, dites donc, vous êtes tellement connu, vous devriez vous présenter à une élection. Ça m'a traversé l'esprit à un moment donné. J'ai dit, peut-être pourquoi pas une élection locale, conseil municipal, etc.
Ouais.
Et je me suis dit, mais si je m'engage, et pourtant je suis un citoyen, après tout j'aurai le droit, Mais je suis un journaliste parlementaire.
Ouais.
Si je m'engage, admettons, avec une équipe de droite ou de gauche, même pour un mandat local de conseiller municipal ou autre, je serai catalogué tout de suite, ou à droite ou à gauche. Et j'aurais beau démontrer dans l'exercice de ma profession de journaliste que, mais non, c'est pas parce que je suis un élu d'un conseil municipal de droite que je suis un journaliste forcément avec des idées de droite, j'aurais beau faire tout ce que je veux, il y aura un soupçon. Donc j'ai complètement abandonné cela. Je ne me suis jamais présenté à une élection, quelle qu'elle soit, même locale. Je n'ai jamais appartenu de loin ou de près, même étant jeune, à un mouvement politique, quel qu'il soit. Jamais. Je vais vous dire un truc, parce que ça, je l'ai découvert au fil du temps. Si ça avait été le cas, je ne vous parlerais pas en ce moment, parce que, vous savez, les hommes politiques, les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, ils ont les moyens de savoir qui vous êtes vraiment.
Hein ? D'accord.
Ça, tout le monde se pose souvent la question, mais c'est vrai. Il y a des renseignements généraux, il y a des responsables dans différents ministères qui savent qui vous êtes. Et quand on a une faille... telle que vous venez de l'énoncer, c'est-à-dire qu'on a eu un moment de sa vie, on était un peu à droite ou un peu à gauche, ou qu'on a fait ceci ou qu'on a fait cela politiquement, pour un poste comme le mien, je crois que ça ne serait pas supportable.
D'accord. Ça sera le mot de la fin, Fernand Tavares ?
Si vous voulez.
Hein ?
Merci en tout cas aux auditeurs de RVE. Et puis je salue au passage plusieurs sénateurs, mais un que j'ai bien connu au Sénat avant qu'il devienne ministre, c'est M. Larcher, évidemment, dont la voix retentit souvent dans les hémicycles en ce moment, d'ailleurs avec le projet de loi sur l'égalité des chances, il est à la tâche, à l'heure d'ailleurs où nous parlons, et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont en sortir.
Ah oui, je m'en doute. Je me doute que ça va être assez, assez long. Bien, merci en tout cas, Fernand Tavares. J'espère que les auditeurs aujourd'hui... qui se posaient plein de questions sur le Parlement, eh bien, seront un petit peu plus confortés dans leur... Et puis vous les avez éclairés, quoi, il n'y a pas de doute.
De toute façon, s'ils ont quelque chose à me dire, parce que moi je reçois beaucoup de courriers aussi, des expériences qui me disent donc, qu'est-ce que c'est que ces députés qui font les imbéciles, c'est honteux, etc. Puis je reçois d'autres courriers, qui sont les gens, que vous dites, les huissiers, qui est-ce qui est à droite du président ou pas, des questions comme ça. Et puis le projet de loi, pourquoi ci, pourquoi ça, eh bien, qui vous écrivent et vous me faites sur le courrier.
Ok, eh bien, écoutez, c'est parti comme ça. Merci beaucoup.
Merci
et puis la semaine prochaine, je recevrai Pierre Bédier, président du Conseil général des Yvelines. Voilà, merci.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
C'est Jean-Michel, ce soir, rencontre avec.